Transfert via GAB, le service d'envoi et de réception d'argent vers et à partir d'un guichet automatique du réseau des banques atlantiques, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité. 33 9 693 693 70.
Anne Campner.
Bonjour à tous, bienvenue. Vous avez la parole pendant une heure et je vous propose aujourd'hui un débat sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quelles solutions aujourd'hui pour rétablir la sécurité ? Quelles options, maintenant que le M23 a rejeté toutes les conditions décidées à Luanda ? Faut-il que la force est-africaine intervienne directement ? Faites-vous encore confiance à la diplomatie ? Appelez-nous pour participer. Toute l'équipe vous attend au standard. Et pour l'instant, comme chaque jour, nous répondons à vos questions sur l'actualité. Direction Abidjan pour commencer l'émission. Bonjour Sosthène.
Oui, bonjour Anne Contenet. Bonjour aux auditeurs de la RFI.
On écoute vos questions.
La semaine dernière, Abidjan s'est ouvert le procès des 18 accusés dans l'attentat de Grand Bassam. Les cerveaux présumés de l'attaque sont absents lors des auditions. Pour quelles raisons ? Pourrait-on espérer leur convocation par la suite ?
Pour vous répondre, nous sommes en ligne avec notre envoyée spéciale permanente en Côte d'Ivoire. Bonjour Binta Diagne.
Bonjour Anne, bonjour Sosthène et bonjour à tous.
Alors pourquoi les cerveaux présumés de cet attentat qui avait beaucoup marqué à l'époque sont-ils absents ?
Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a que 4 personnes qui ont été arrêtées dans ce dossier. C'est vrai qu'en 2016, la justice ivoirienne a lancé plusieurs mandats d'arrêt. Ces mandats visent notamment les présumés commanditaires de l'attentat de Grand Bassam. Les accusés les plus importants seraient en détention aujourd'hui au Mali. On peut noter parmi eux le nom de Mimi Oulbaba, qui a déjà donc été interrogé par la justice malienne concernant l'attentat contre le restaurant Le Cappuccino à Ouaga, qui avait eu lieu début 2016, un peu avant Grand Bassam. Et dans ses interrogatoires, Mimi Oulbaba reconnaît avoir été contraint par Mohamed Al-Nouini, le chef de l'organisation Al-Mourabitoun, de préparer les attentats de Ouaga, mais aussi celui de Grand Bassam. Mimi Oulbaba aurait ainsi fourni les armes qui ont servi à commettre l'attentat de Bassam, toujours sur ordre de Mohamed Al-Nouini. À côté de lui, il y a également Alou Doumbia, qui est accusé d'avoir transporté les armes de Bamako à Abidjan par la route. Alors, ces deux personnes ont été donc arrêtées au Mali. Leurs interrogatoires auraient, selon la justice ivoirienne, donné moult détails, non seulement sur le mode opératoire des terroristes, mais également sur le degré de participation de tous les acteurs impliqués dans l'attaque. Et visiblement, 2 commissions rogatoires internationales lancées en 2017 sont restées lettres mortes. Quant à Dalla Kunta, qui est énormément cité ces derniers jours lors du procès, lui, il est accusé d'être l'organisateur présumé de l'attentat de Grand Bassam. Et par contre, lui, il n'est pas en détention, il sera en fuite depuis l'attentat. Alors, pour que ces prévenus soient présentés devant la justice ivoirienne, eh bien, en fait, il faut tout simplement qu'ils soient d'abord arrêtés et livrés à la justice ivoirienne. Or, la plupart de ces personnes ont quitté la Côte d'Ivoire soit avant ou bien juste après l'attentat de Grand Bassam. Et il y a en fait aussi une interrogation autour de 8 autres personnes qui n'apparaissent pas au procès et dont on n'a pas de nouvelles depuis.
Binta, je crois que Sosthène avait une autre question pour vous à propos de ce procès.
Évidemment, seulement 4 prévenus sont présents aux audiences. Comme Binta Diagne en sait plus, connaît-on déjà leur rôle dans l'attaque ?
Est-ce qu'on sait ce qu'ont pu faire, le rôle qu'ont pu jouer les 4 prévenus dans cette attaque qui avait fait 19 morts donc, en 2016, Binta ?
Alors, ces 4 accusés, ce sont, vous l'avez bien compris, pas les commanditaires de l'attentat de Grand Bassam. A priori, ils ont plutôt un rôle périphérique. Ils ont assuré la logistique autour de l'attentat. Et pour le moment, il y a 2 personnes qui sont passées à la barre, au tribunal. Il y a notamment Mohamed Cissé, qui a été interrogé donc le premier jour, mercredi. Il se présente comme étant un chauffeur. Il affirme avoir conduit Kunta Dalla, le cerveau présumé de l'attaque, sur la plage Grand Bassam, bien avant l'attentat. Mohamed Cissé n'était pas sur place le jour de l'attentat. La question qui se pose pour lui, c'est surtout de savoir son degré de connaissance du projet d'attentat. À la barre, ce chauffeur de 52 ans assure qu'il ignorait les projets de Dalla Kunta. Même chose pour Mohamed Kunta, qui lui est passé jeudi. C'est un marabout qui a hébergé une dizaine de jours Dalla Kunta, Ibrahim Ould Mohamed. Il affirme que Dalla Kunta a déjeuné chez lui le jour de l'attentat. Alors, Toute la question pour lui, c'est de savoir s'il avait deviné ou non que quelque chose se tramait. À la barre, il affirme que Kuntadala était un homme calme ce jour-là, qui ne parlait pas trop, qui égrenait son chapelet. Et il assure surtout n'avoir rien vu, n'être impliqué dans rien dans l'attentat. Alors les deux autres accusés qui doivent être interrogés doivent comparaître mercredi et jeudi. La justice les accuse d'avoir convoyé les armes et d'avoir fait du repérage sur la plage de Grand Bassam.
Merci Binta Diagne en direct. Merci d'avoir répondu aux questions Sosten. On vous souhaite à tous les deux une très bonne journée à Abidjan. Et on se rend maintenant à Béboto, au Tchad, où nous attend Osana. Bonjour.
Bonjour Anne, je profite pour dire bonjour à tous les panafricains du monde entier.
On écoute vos questions.
Ce week-end, le procureur général iranien a annoncé la suppression de la police des mœurs responsables de la mort de Mahsa Amini. Alors, j'aimerais savoir, après plus de 2 mois de répression, de manifestations, pourquoi les autorités iraniennes prennent cette mesure maintenant?
Allez-y, pardon, je vous ai interrompu.
Oui. Pourrait-elle céder à d'autres revendications des manifestants?
Alors, c'est le chercheur Thierry Coville qui va vous répondre, Osana, spécialiste de l'Iran, chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Bonjour Thierry Coville.
Oui, bonjour.
Alors, avant de répondre à la question d'Osana sur pourquoi cette décision maintenant, j'aimerais qu'on précise peut-être quelque chose, parce que comme vient de nous le dire notre auditeur, cette annonce vient du procureur général. Est-ce que sa parole est officielle ou est-ce que la décision doit encore être confirmée par le régime?
Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que normalement, ce n'est pas de la responsabilité de la justice en Iran, cette question de ce qu'on appelle cet organisme qui contrôle effectivement le voile des femmes. Donc, il a dit clairement, ceux qui ont pris cette décision, maintenant l'ont annulée. Donc, c'est un petit peu ambigu parce que c'est pas la justice qui doit décider de ça, c'est le gouvernement iranien, c'est le ministère de l'Intérieur. D'un autre côté, c'est pas n'importe qui. Donc, s'il fait ce type de déclaration, je pense qu'il y a derrière, il y a une part de vérité, quoi.
Et alors, pourquoi cette décision maintenant? Osana nous disait plus de 2 mois, ça fait presque 3 même, depuis le début des manifestations.
Parce que je pense qu'il y a une énorme pression qui monte en Iran. Les autorités se rendent bien compte que, contrairement à ce qu'elles disent, ces manifestations ne sont pas téléguidées par Israël et les États-Unis. Ça vient d'un profond mécontentement politique, économique, social en Iran. Donc je pense qu'elles pensent apporter un début de réponse, un début de réponse politique à la crise actuelle.
Et est-ce qu'on peut s'attendre à voir le régime accéder à d'autres demandes des manifestants se levant? Parce que depuis, en 3 mois, la protestation a pris énormément d'ampleur et les demandes vont bien, bien au-delà du port du voile aujourd'hui.
Exactement. Alors c'est là où on peut avoir des doutes. Effectivement, les demandes maintenant, très clairement, les gens dans la rue disent on ne veut plus de la République islamique d'Iran, on veut la démocratie. Les dirigeants, si on prend les discours d'Ali Khamenei, le guide suprême, lui, il reste ferme sur ses positions. Il considère que les manifestants sont des voyous. Donc, effectivement, il y a énormément de doutes sur la capacité des dirigeants iraniens de répondre par un plus grand nombre de réformes. C'est ce que leur demandent les journaux modérés tous les jours. Il y a une figure modérée importante qui a dit « on voudrait une assemblée constituante pour réfléchir à une nouvelle constitution ». Il n'en est absolument pas question actuellement chez les dirigeants de la République islamique d'Iran.
Donc on n'en est pas encore à des gestes extrêmement forts. Comment est-ce qu'on peut interpréter celui-là, selon vous, alors que dans le même temps, la justice prononce des condamnations à mort, exécute des prisonniers? Est-ce que c'est simplement une manœuvre ou le signe d'une vraie ouverture et peut-être d'une fragilisation du régime?
Alors, je n'ai pas la réponse à votre question. Ce qu'on peut dire, je pense quand même, ce n'est pas anodin. Si une personnalité aussi importante dit ça, ce n'est pas anodin. Ils se rendent bien compte de la pression. D'un autre côté, ils ont très peur de ce que vous dites. C'est-à-dire ils ne veulent surtout pas qu'une petite ouverture de leur part soit interprétée comme de la faiblesse. Donc, c'est comme d'habitude en Iran, c'est un mélange de concessions et puis de dureté. Bon, ils ont également parlé de réfléchir à la loi sur le voile obligatoire en Iran. Le président en a parlé. On sait, je vous dis, il y a quand même un mécontentement. Ils se rendent bien compte qu'il y a un mécontentement économique, social et politique. Il y a un dirigeant des postes d'Aran qui a dit c'est un mécontentement économique à la base de ces manifestations. Donc, le président du Parlement dit on va changer notre approche. Bon, là, je vous dis, on peut être un petit peu interrogatif. Mais bon, on va voir ce qui va se passer s'ils changent vraiment leur réponse aux manifestations actuelles et en arrêtant la répression.
Merci beaucoup Thierry Coville d'avoir accepté de répondre aux questions d'Ossana. Et merci Ossana de nous avoir appelé. Un numéro pour nous joindre, que ce soit pour nous faire part de vos questions ou bien pour participer au débat. La seconde partie de l'émission, c'est le 339 693 693 70. Vous pouvez aussi nous écrire sur les réseaux sociaux et sur WhatsApp. Là, ça n'est pas le même numéro, je vous le redonne. 33 6 89 28 53 64. 8h20 en temps universel. Une question qui nous vient de Nouakchott, c'est Aziz qui nous la pose, mais il ne peut pas être avec nous à l'antenne ce matin. Une question à propos de Salah Hamouri, détenu en Israël depuis 8 mois. La semaine dernière, Israël a annoncé son expulsion. C'est un avocat franco-palestinien. Alors, il a été arrêté. Pourquoi est-ce qu'il a été maintenu si longtemps, donc 8 mois en prévention sans motif véritable par les autorités israéliennes? C'était sa première question. Et puis Aziz s'interrogeait aussi sur les recours possibles pour essayer de rester vivre à Jérusalem. Et pour répondre à ces questions, nous sommes en ligne avec notre correspondant. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Peut-être avant de répondre à ces deux questions, on va rappeler ce qui s'est passé, les faits pour Salah Hamouri, donc cet avocat franco-palestinien qui vit à Jérusalem.
Absolument. Alors, Salah Hamouri est un avocat franco-palestinien qui vit ici à Jérusalem, ses parents également. Son épouse Elsa Lefort s'est vue refuser la prolongation de son visa de séjour. Elle ne peut plus se rendre en Israël ou dans les territoires palestiniens. Elle vit donc en France avec les deux enfants du couple. Salah Hamouri a 37 ans. Il est né dans la partie orientale de la ville, comme tous les habitants palestiniens de ce secteur qui a été annexé par Israël. En contradiction avec la loi internationale, il ne possède pas la nationalité israélienne, mais un simple permis de résidence qui a été révoqué par les autorités israéliennes l'année dernière.
Alors Michel Paul, pourquoi est-ce que Salah Hamouri a été maintenu en détention sans motif vraiment par les autorités israéliennes ?
Là encore, hein, il faut revenir en arrière, très précisément en 2005, il est emprisonné à l'époque pour avoir fomenté un attentat contre le grand rabbin d'Israël, Ovadia Yosef, selon la police et les services de sécurité israéliens, et aussi pour complicité avec le FPLP, une organisation qui est classée terroriste. Après avoir nié les faits, il a plaidé coupable, non pour avouer, mais pour avoir une peine moins longue, explique-t-il. Il est libéré après 7 ans de prison dans le cadre d'un échange de prisonniers, mais aujourd'hui, il est en détention administrative. Alors c'est une procédure qui permet d'incarcérer un suspect sans limite dans le temps et sans lui notifier ce qu'on lui reproche. Sous la pression des autorités françaises, il devait être libéré hier et aussitôt expulsé vers la France, mais pour vice de forme, la procédure a été repoussée d'au moins 2 jours.
Salah Hamouri a-t-il encore des recours juridiques à sa disposition, Michel Paul ?
Eh bien écoutez, en principe, c'est donc demain que doit avoir lieu une nouvelle audience à son sujet et il pourrait être expulsé dans la foulée vers la France. Mais Salah Hamouri s'oppose à cette mesure. Il entend pouvoir continuer à vivre à Jérusalem auprès de sa famille. C'est d'ailleurs également la position officielle des autorités françaises. Ses défenseurs en appellent aux compagnies d'aviation pour refuser de transporter tout individu contre sa volonté. C'est un crime de guerre, proclame-t-il. Un nouvel appel pourrait être également présenté devant la Haute Cour de justice israélienne. Et cela pourrait faire jurisprudence, non seulement pour Salah Hamouri, mais pour nombre d'autres Palestiniens qui se trouvent dans une situation similaire, à un moment où un gouvernement d'extrême droite est sur le point de voir le jour en Israël. Et la mère de Salah, Denise Hamouri, m'a confié qu'elle espérait un miracle de Noël.
Michel Paul, correspondant de RFI à Jérusalem, merci d'avoir répondu aux questions d'Aziz, à qui on souhaite une très bonne journée à Nouakchott. J'espère que vous avez pu entendre les réponses. Aziz, si vous voulez en savoir plus sur cette question, vous pouvez réécouter l'entretien que nous a accordé ce matin l'ambassadrice de Palestine en France, Madame Ala Abou Assira. Entretien à retrouver en audio et en vidéo sur notre site RFI.fr. Dernière question de la matinée. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour madame, bonjour à tous, bonjour à votre super équipe d'appel sur les grandes actualités.
Et merci à toutes les personnes qui participent à l'émission tous les jours. Jean-Baptiste, vous aviez des questions sur la République démocratique du Congo.
Oui, effectivement, parce qu'il s'agit de mon pays. Après seulement 5 jours de trêve, le combat a repris entre le rebelle MV3 et notre armée de FARDC dans l'est de la RDC. Ma première préoccupation, comment expliquer la reprise de ces affrontements?
Alors nous sommes en ligne par téléphone avec Adolphe Aguenonga-Schauber, professeur à l'université de Kisangani et spécialiste des questions de sécurité. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui est le plus surprenant en fait? Que le cessez-le-feu ait tenu 5 jours ou bien que les combats aient repris, comme nous le rappelait Jean-Baptiste?
Alors, est-ce que faut-il parler d'un cessez-le-feu dans la mesure où le M23 avait rejeté en bloc les résolutions qui ont été prises par le chef d'État, membre de l'EAC à Luanda? Donc, du coup, il fallait s'attendre à la reprise des combats. Par ailleurs, la question qui doit être posée, c'est celle de savoir qui était à l'initiative de la reprise des combats. Mais si c'est le M23, évidemment, la poursuite des combats pour le M23 constitue une pression supplémentaire sur le gouvernement congolais pour qu'il puisse directement négocier avec lui ce qu'il n'a cessé de réclamer, alors que le gouvernement de Kinshasa lui a opposé une fin de non-recevoir.
Et a posé un certain nombre de conditions à Luanda. Vous nous le rappeliez, parmi ces conditions, il y avait la fin des combats, le retrait du M23 des villes qui ont été conquises ces dernières semaines et ces derniers mois, et puis le désarmement avec, à terme, au bout de quelques semaines, le retour des populations déplacées. Tout ça, le M23 l'a rejeté. Et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui? Est-ce que les forces est-africaines qui ont commencé à se déployer dans la région pourraient intervenir?
Alors, c'était évident pour plusieurs raisons. Premièrement, il faudrait souligner le fait que le Kenya n'a pas déployé tous les effectifs militaires autorisés par son Parlement. Je rappelle que le Parlement a autorisé au Kenya de déployer 903 militaires environ, mais jusque-là, il n'y aurait que 200 à 300 militaires qui sont sur le terrain, mais qui n'ont pas de moyens parce qu'on a on n'a pas vu le Kenya déployer des artilleries ou des avions de combat pour une éventuelle intervention militaire. Et le Kenya lui-même se plaint de n'avoir pas suffisamment de moyens. Mais en même temps, dans le Nord Kivu, l'on s'aperçoit que la société civile elle-même s'oppose avec véhémence à une éventuelle intervention de l'EAC.
Oui, il y a beaucoup de réticences sur place, notamment alors, vis-à-vis de militaires kényans, mais aussi de militaires ougandais qui pourraient arriver dans la région. Cette disposition ne fait vraiment pas du tout l'unanimité.
Non, pas du tout, ça ne fait pas l'unanimité. Mais par ailleurs, une autre question fondamentale qu'il faudrait souligner, c'est le fait que le Kenya lui-même aussi a plutôt une autre vision. Le Kenya voudrait plutôt se constituer à une force d'interposition entre le belligérant pour donner la chance à la négociation. C'est dans cette dynamique que le président kenyan, William Ruto, a nommé son prédécesseur, Uhuru Kenyatta, pour assurer la facilitation du dialogue. Et enfin, l'opération militaire menée par une organisation régionale s'appelle la subsidiarité. Et à ce titre, les dispositions de l'article 53 de la Charte des Nations Unies sont bien claires. Il faut que le Conseil de sécurité de l'ONU puisse donner son mandat pour une telle opération, ce qui n'a pas été chose faite. Du coup, l'on se pose la question de savoir si un déploiement de la force de l'EAC y en a, quel pourrait être le type de collaboration avec la MONUSCO, qui est la seule mission qui est autorisée par le Conseil de sécurité de l'ONU pour et mener les opérations de paix en République démocratique du Congo.
Et qui, elle, pourrait avoir une action offensive?
Oui, ben pour l'instant, c'est aussi hypothétique parce que la MONUSCO disait clairement que le M23 en disposait de plus en plus de moyens en sophistiques dont la MONUSCO ne disposait pas. Du coup, cela pouvait être interprété comme un aveu de faiblesse. Donc, il est hors de question pour l'instant de voir également la MONUSCO intervenir militairement.
Directement.
Or, dans les dernières résolutions de Luanda que le chef d'État membre de l'EAC avait prises, il était également question d'impliquer la MONUSCO dans dans ce processus.
Et pour l'instant, ça n'est absolument pas ce qui se passe. En tout cas, on ne voit pas de signe. Merci beaucoup, Adolphe Aguenonga-Schauber, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université de Kisangani.